Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Le courage, aussi appelé force de l'âme, est considéré comme une vertu cardinale, c'est-à-dire une qualité qui joue un rôle charnière en elle-même et dans l'agencement des autres qualités. Selon Aristote, le courage est la première des vertus, leur mère à toutes. C'est la qualité de celui qui est suffisamment fort pour surmonter sa peur face au danger. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la personne courageuse craint les mêmes choses que tout un chacun, mais elle y fait face comme il se doit, en suivant une bonne motivation, une règle juste et en poursuivant un destin louable, lui-même vertueux. Il faut aussi préciser qu'une personne courageuse est quelqu'un qui ne craint que ce qui est rationnellement redoutable et qui est capable d'agir ainsi que l'exige la raison en face d'une crainte raisonnable. Pas le type qui a peur d'une souris et aurait la force de l'affronter par exemple. Le courage est un moyen d'accomplir une action bonne mais aussi une vertu à poursuivre en elle-même. Enfin, Aristote dit que la personne vertueuse prend plaisir à commettre des actions vertueuses. De ce point de vue, on peut se demander si ce principe de plaisir s'applique au courage. Les personnes courageuses tirent-elles du plaisir de leurs actions courageuses ? Pas si sûr. Car le courage implique parfois de la douleur, du sacrifice, du renoncement. Toutefois, une fois le but de l'action poursuivie accompli, et s'il est noble, on peut supposer qu'une certaine satisfaction en ressortira, comme le plaisir d'avoir bien agi. L'exemple de courage le plus souvent utilisé dans la philosophie grecque est celui de la guerre. L'homme courageux se manifeste dans la mort, qu'on trouve à la guerre, au milieu des périls les plus grands et les plus glorieux, écrit Aristote dans l'Éthique à Nicomaque. L'homme se montre sans peur en face d'une belle mort. Tout de suite, dans Les Pieds sur Terre, quartier d'été, vous l'aurez deviné, ce sont deux histoires de courage dans un contexte de guerre symbolique, entre les riches et les pauvres par exemple, ou les pauvres et les moyens pauvres. Deux histoires qui répondent bien de ce point de vue à la définition aristotélicienne du courage. Elles ont en plus le mérite de ne pas réserver cette belle vertu à son expression virile, passéiste ou encore nostalgique. Nathalie et Margot, tout de suite, deux femmes courage, c'est un reportage, de Leïla Djitli pour Les Pieds sur Terre, quartier d'été.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Ça, c'est des produits frais, ça.
Et ça, vous allez le mettre où, Nathalie ?
En vitrine, à vendre pour les clients, pour l'épicerie. Là, toi. Mais, dis donc.
Nous sommes à Champ-du-Bout. On est 389 habitants. C'est Champ-du-Bout, c'est au bout du champ. Et vous avez toutes les communes. Vous êtes à 9 km de Saint-Sever, 15 km de Vire. On n'est pas loin du Mont-Saint-Michel. Quand je suis arrivée ici, c'est ça qui m'a plu, le mot, le Champ-du-Bout. Ici, les gens d'ici s'appellent les Chambourins et les Chambourines. Or, ça m'a, j'ai trouvé ça mignon. Donc voilà, je suis arrivée là et puis j'ai développé le commerce, donc de bar, tabac, presse, restaurant, épicerie, dépôt de pain, dépôt de gaz, service point vert, service banque, service poste. Chaque année aussi, le 20 août, on organise un vide-grenier. Voilà, on a beaucoup de monde qui vient et puis on essaye de se faire connaître, etc. Et puis, bah, voilà, je suis un petit peu l'attraction du village puisque c'est le seul commerce qui reste. Donc, évidemment, c'était une affaire qui était fermée, que j'ai repris il y a 5 ans. Quand je suis fermée, si je pars en vacances ou quand je ma journée de fermeture le lundi, c'est très calme. Le village s'endort, vous voyez.
Vous y vivez avec vos enfants ?
Mes deux enfants, oui, mes deux enfants. Et effectivement, donc le vendredi, chaque vendredi, ça ferme beaucoup plus tard parce qu'il y a tout le monde se regroupe, ça fait un petit peu pub en fait le vendredi. Je ne mets pas mes clients dehors s'il y a une bonne ambiance, etc. Et ça se passe toujours bien.
Vous avez un peu de poigne aussi.
Ah ça, c'est une force de caractère. Ouais. C'est la vie qui nous endurcit un peu et puis bah, on forge le caractère. Puis bon, déjà, j'avais un caractère déjà... Faut bouger un peu parce que quand vous avez du monde à l'épicerie ou au pain et qu'il y a du monde au bar et qu'il y a du monde au tabac, faut y aller.
Qu'est-ce que vous faites là?
Bah, je mets tout mon poisson en vitrine.
Et là, qu'est-ce que c'est que toutes ces petites bêtes là?
Ça, c'est des moussettes, ça.
Oula, elles bougent encore là.
Bah, c'est normal, elles sont vivantes.
Ah, sérieux?
Alors jusqu'au jour que, effectivement, le vendredi 15, la journée était normale. En fin de soirée, à 22h exactement 42, tout le monde venait de partir, il y avait, il restait plus que 5-6 clients. Et là, un homme rentre, arme à la main, cagoulé, et dit « c'est un braquage ». Donc moi, pensant que c'était une plaisanterie, parce que j'avais un petit bébé d'un mois et demi, j'étais en train de lui faire son petit rot parce qu'il venait de manger, donc j'avais demandé à la maman si je pouvais lui faire son petit rot. Comme les miens sont grands, eh bien c'était l'occasion de pouponner un peu. Donc je suis passée avec le bébé en lui protégeant sa petite tête pour pas... Et puis j'ai poussé ce jeune homme qui braquait tout le monde. De là, j'ai été déposer le bébé à sa maman pour gérer le problème et puis éventuellement le mettre dehors si besoin. Et quand je suis arrivée, il a demandé qui sont les gérants. Je dis, c'est moi. Et il dit, la caisse, c'est un braquage. Je dis, c'est quoi cette plaisanterie? Et il me tend le sac et il me dit, la caisse, remplis le sac. Je dis, ça va bien, non? Tu te crois où, dans une banque, là? C'est n'importe quoi, ça. Et là, il me dit, c'est un vrai braquage. Je dis, un vrai braquage. Je dis, ça va bien, c'est du n'importe quoi, ça. Je dis, j'y retourne d'où tu viens. Je dis, montre-moi ta goule. Je voulais enlever sa cagoule et circuler un peu. Et puis continuer à me braquer. Je dis, on me braque pas, c'est bon, ça commence à bien faire, là. Et je pensais toujours que c'était une arme fictive. C'était un truc en plastique ou je sais pas quoi. Je pensais pas du tout une vraie arme. Et là, j'ai chopé le canon du pistolet parce que ça me tapait sur les nerfs, qu'il me braque sans arrêt comme ça. Et là, quand j'ai chopé le canon, c'est là que je me suis aperçu que c'était un vrai. Puis là, bah, la bagarre a commencé parce que, bah, de toute façon, je le tenais. Donc, il fallait plus que je le lâche. Et puis, bah, c'est parti. Puis, j'ai un client qui l'a assommé un peu avec la chaise. Donc, j'ai profité d'y en mettre quelques-unes derrière pour le finir. Donc, dans la bagarre, j'ai vu qu'il allait tirer. Donc, j'ai eu le temps juste d'écarter sa main pour balancer sa main. Et on voit le coup de feu qui part entre ma main et mon côté gauche de moi-même. Donc, mais le bruit ne m'a même pas impressionné. Ça a impressionné beaucoup de monde, mais je m'en suis même pas rendu compte, moi, parce que c'est parti tellement vite. Sur le coup, j'ai reculé un peu et je suis reparti dessus. Bon, après, il est parti, et puis voilà.
Vous êtes reparti dessus en le tapant avec son sac, c'est
ouais,
ça?
Oui, 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 tout à fait, oui, oui, tout à fait.
On vous voit, d'ailleurs, vous pouvez me commenter la vidéo. Il n'y a pas de son, ça c'est
non,
la...
c'est
ça,
la c'est... vidéo de surveillance, mais il n'y a pas de son, non.
Et là...
Voilà, on voit le petit bout de chou, là, qui est dans mes bras. Et vous voyez, il rentre direct avec son arme, en braquant tout le monde. Je dis, c'est bon, là, pousse-toi. Donc, il est parti en courant direction Saint-Michel-de-Montjoie, récupérer son... Il était en scooter, hein. Et puis après, donc mes clients sont sortis. Et puis, il s'est aperçu qu'il a perdu son chargeur, le canon du pistolet. Enfin, bref, il avait perdu plein de bouts. Donc, il a fait demi-tour et puis il est revenu en sachant que de toute façon, il allait être attrapé. Donc, il a essayé d'adoucir les angles et puis...
Il est revenu dans la boutique.
Non, il est revenu dehors. Il est revenu dehors. C'est nous qui l'avons fait rentrer dans la boutique en attendant la gendarmerie. On lui a dit que si jamais il bougeait, on allait s'en occuper.
C'est quoi la maison, tout ça? Parce que j'ai pété la tête à quelqu'un et qu'aussitôt, quand vous êtes...
Mais mon boulot, il se fait pas tout seul.
Bon, tu veux une petite princette?
Oui.
Allez, le petit verre de la patronne.
Quand j'ai discuté avec lui, je l'aurais bien pris en pitié quelque part parce qu'il paraissait tout triste. Apparemment, il n'avait pas une enfance plus que ça heureuse, c'est ce qu'il m'a dit. Alors bon, je l'ai pris un peu en pitié, mais je dis, c'est pas une solution, c'est n'importe quoi. Je l'ai même fait rentrer dans la boutique pour pas que tout le monde lui mette une volée, parce que après qu'il était désarmé, voilà, ça s'est pas passé en douceur non plus. Donc j'ai essayé de savoir un petit peu qui il était pour comprendre ce geste et de savoir d'où il arrivait, parce que nous on le connaissait pas du tout. Hein. Moi c'est quelqu'un que je connaissais pas du tout. Je l'avais jamais rencontré. Et savoir pourquoi ici, et est-ce qu'il avait déjà repéré les lieux, etc. Il a décidé de braquer un commerce, lequel il ne savait pas.
Mais pour quelle raison, il vous a expliqué ?
Eh ben parce qu'il n'avait pas de travail, et il était en problème d'argent. Enfin bon, je trouve ça lamentable.
Donc il aurait pu se faire lyncher s'il ne l'avait pas fait rentrer dans la boutique. Hein.
Ah, je pense, ouais. Oui. Je l'ai protégé quand même parce que je voulais pas... on n'a pas à faire justice. Bon, maintenant, moi, je me suis défendue, certes, parce que donner ma caisse, je suis désolée, mais je suis pas d'accord. Je suis désolée, c'est peut-être de l'inconscience, comme m'ont dit certains. Alors, effectivement, mais je suis désolée, on n'a pas le temps de réfléchir dans ces cas-là. Moi, je fais plus de 80 heures par semaine. Je gagne ma vie comme je peux, honnêtement. Mais il ne faut pas non plus... moi, ça allait me mettre dans le caca si je lui donnais ma caisse. Donc, il n'en était pas question. Si je peux me sortir un mois 500 ou 1000 euros, et puis que c'est ce que je vais avoir gagné Marcette, et puis qu'il part avec, moi, bah, dans ces cas-là, j'ai plus rien. Donc je suis désolée, mais faut pas croire qu'on roule sur l'heure parce qu'on est patron. Hein. Voilà, donc en plus, un vendredi, c'est une de mes grosses journées, donc c'était pas possible. Après, c'est vrai, c'est pas réfléchi, puis bon, ça s'est passé très vite. C'est quoi ce cirque ? Moi, j'ai un établissement de débit de boissons. Je suis là pour mettre de l'ordre. Je suis pas là pour laisser tout le monde faire n'importe quoi. Il n'y a plus que tout le monde passe derrière le bar. Tout le monde va faire n'importe quoi. Où va-t-on ? Je suis désolée. Ici, je suis chez moi. Et c'est encore moi qui ai la patronne. Donc, il fait la loi ici, chez moi. Et que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est comme ça.
France Culture, les pieds sur terre. Alors c'est un appartement que j'ai habité quasiment presque 10 ans, on va dire, pas tout à fait mais presque. C'était au mois de mai, c'était il n'y a pas très longtemps. J'ai du mal maintenant un petit peu à situer l'année, les années, enfin bon, c'est un sentiment qui est encore très douloureux. Quand j'ai pris la décision, il faisait encore beau et j'ai pas voulu rester dans cet appartement parce que je ne voulais pas m'endetter. C'était trop douloureux pour moi d'imaginer que je pourrais plus payer ce loyer d'un appartement que j'avais tellement aimé et dont il m'arrive encore de rêver. Moi, j'aime beaucoup la lumière, donc c'est un appartement lumineux qui donne sur la vallée. Enfin, il y a une baie vitrée dans le salon, il y a deux baies vitrées dans les chambres, la chambre de mon fils et puis la mienne. Et il était bien conçu, c'est un appartement fonctionnel, avec deux chambres, un débarras, une jolie salle de bain, un joli salon, une jolie cuisine, une jolie entrée. Enfin, pour moi, il était... l'aboutissement de ce que j'ai toujours recherché, quelque chose de clair, voilà. Et j'en suis partie, mais parce que je pouvais plus faire face au niveau du loyer. J'avais perdu mon emploi quelques années auparavant. Donc j'avais tout fait pour retrouver un emploi, et puis j'ai pas retrouvé d'emploi, et donc je pouvais pas faire face à ce loyer, parce que je n'étais plus en allocation de retour à l'emploi, mais j'étais en allocation spécifique de solidarité. Donc rien que le titre de cette allocation est évocateur. C'est-à-dire que je suis un cas social, on va dire. C'est-à-dire que je peux plus faire face à des factures d'électricité, d'eau, de gaz, de tout ce qu'on veut, de téléphone, etc. Donc avec 487 euros par mois, je me voyais vraiment... c'était impossible pour moi de faire face à ce loyer. Voilà, donc je suis partie. J'étais assistante de direction, donc dans un groupe, et puis notre vie professionnelle a changé, donc on m'a remercié, et donc j'ai pensé que j'allais pouvoir retrouver un emploi. Au contraire, je me suis vraiment dit, j'ai pas eu peur, hein, je me suis dit, bon, là c'est bon, j'ai 48 ans, j'habite pas loin de Paris, je suis en forme...
je suis diplômée, j'ai 10 ans d'expérience derrière moi, donc voilà, j'étais quoi, une demi-heure de Paris, hein, à peu près. Donc pour moi, j'allais pouvoir retrouver, et puis en fait, j'ai pas retrouvé, j'ai galéré, hein, j'ai retrouvé des CDD, des petites missions, j'ai fait des petits remplacements, justement pour garder des petits sous qui me permettaient de vivre, et puis garder toutes mes allocations pour moi, les mettre de côté. J'ai toujours fait en sorte d'avoir un peu d'argent de côté, donc j'ai vraiment été très économe et très prudente. Et puis, mais un jour, au bout d'un moment, je trouvais plus de remplacement. Je trouvais strictement plus rien. Et donc, j'ai été obligée de renoncer à cet appartement. Mais pas qu'à l'appartement, parce que j'ai mis mes meubles en vente, je les ai mis sur un site bien connu sur Internet. Donc, en vente, je les ai surtout bradés. J'avais du linge de maison que j'ai vendu soit sur les vide-greniers, soit comme ça, à des dames qui m'ont repris le linge de maison, de famille, certains draps de famille. Et puis, je me suis délestée, plutôt que débarrassée, je me suis délestée de tout ce qui était futile, en fait. Donc, j'ai accordé aucun sentiment à certaines choses et j'ai gardé l'essentiel.
C'est-à-dire ?
Alors, j'ai gardé un âne corse que mon oncle et ma tante m'avaient ramené de Corse. Quand j'étais petite, en 1969, j'ai gardé un verre d'Evian que mon grand-père m'avait ramené d'une cure qu'il faisait. Donc, je me souviens que mon grand-père faisait des cures, donc je voulais pas me débarrasser de ce verre. Mais j'ai gardé des bricoles que mon fils avait fait pour la fête des mères, les Noëls, les anniversaires. Des choses que mes parents m'avaient offertes. Voilà, hein, des petites choses vraiment essentielles. Et j'ai gardé les albums photos. Ça c'est, pour moi, c'est important. Les albums photos et puis mes disques et mes livres. Je m'en souviens très bien de ce dernier jour parce que les déménageurs sont venus la veille. J'étais triste, j'étais bouleversée. Bon, ils ont dormi à la station essence, je crois, ou dans leur, dans leur camion. Et puis, je sais qu'il y en a un qui m'a dit qu'ils avaient pris une douche et un café à la station essence. Et moi, j'ai fait le ménage toute la nuit, j'ai frotté tout, j'ai tout rendu propre. On a chargé les meubles. J'ai gardé un secrétaire. Ma chaîne IFI, deux, trois petites bricoles ainsi, quoi. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, je fumais encore. Maintenant, j'ai arrêté, ça coûte trop cher. J'ai fumé une ou deux dernières cigarettes sur le balcon. J'ai fini de nettoyer. Mon propriétaire est venu. On a fait un tour rapide. Il m'a redonné mon chèque tout de suite en me disant que j'avais plus besoin de cet argent que lui, en fait. Donc voilà, et puis je suis montée dans le camion avec mes deux déménageurs, donc Maxime et François, et puis on est parti. Voilà, et là j'ai vu toutes les petites maisons voilà qui ont défilé sous mes yeux, toutes les petites les petits pavillons en pierre meulière, tout ce que j'avais aimé et tout ce que je me disais, un jour peut-être que moi j'aurai une maison comme ça, avec un grenier, avec tout ce que je venais de vendre dedans. Et c'est tous ces petits rêves-là qui s'envolent, quoi. Il faisait beau et chaud et on a pris la route et puis voilà, on s'est engagé sur la bretelle d'autoroute, on a pris l'autoroute et moi je sais qu'à un moment donné je me suis endormie. Et puis, je me suis réveillée un peu en bas, dans le sud. Et après, j'ai vraiment bien émergé quand on a passé Bergerac. Et là-bas, voilà, c'est un peu... c'est mes terres, là-bas. J'ai quand même encore des amis d'enfance. Puis, y a tout mon village, hein, le château, le restaurant, l'église anglicane, Taïkava, les Vignac, Duras, c'est chez moi. Là, je me sens les deux pieds bien ancrés sur terre et je me sens en prise directe avec la vie, quoi. Mes grands-parents paternels sont du sud-ouest. Donc, ma cousine m'a dit que là-bas, une dame cherchait une dame de compagnie. Je me suis dit, dame de compagnie, ça fait un peu vieille fille au père. Et elle m'a dit, mais que tu es sotte, c'est pas ça. En fait, elle m'a dit, en plus, tu la connais, c'est Tante Marthe. C'est une dame qui a une propriété viticole et on l'appelait Tante Marthe. Tout le monde l'a toujours appelée Tante Marthe. Et je saurais même pas vous dire pourquoi. Parce qu'elle est là, on la raccroche à personne, en fait. Et j'ai accepté parce que tout en étant toujours en recherche d'emploi, hein, attention, parce que c'était un hébergement et que je me suis dit là au moins je vais pouvoir, c'était au printemps, vous voyez, je me suis dit là je vais pouvoir me poser, donc c'est pas comme si on m'avait déraciné pour me mettre dans un endroit que je connaissais pas du tout. Je ne me dis pas demain on va me mettre dehors, vous voyez, je suis au calme en fait. Donc on sort de Bergerac et puis là les paysages changent et ce sont des vallons, on commence à voir des vignes, les arbres sont en fleurs, même un petit peu plus qu'en fleurs, c'est très verdoyant, on sent quelque chose d'apaisé, d'apaisant. Là on rentre dans des terres qui sont encore moyenâgeuses au niveau de l'architecture. En fait, je me sens sauvée, je me sens abritée, je me sens plus seule. Je suis très triste d'avoir quitté Paris parce que c'est ma ville quand même. J'ai bien conscience qu'il y a des tas de choses que je vais plus pouvoir faire avant un bon moment. Donc ça m'attriste énormément. En revanche, je me sens soulagée d'être rentrée chez moi quelque part. Je me sens sauvée. Je me dis là, il peut rien m'arriver. Et puis à Paris, moi j'avais extrêmement peur. Je me disais si je me retrouvais dans la rue en n'ayant pas pu sauver quelques meubles, pas pu sauver quelques affaires, là c'est la descente aux enfers. Le courage, il est de faire face. Le courage, il est de se lever tous les matins en se disant qu'est-ce que ça va être demain ? Qu'est-ce que va être ma vie demain ? Parce que là, pour l'instant, moi, je suis avec 16,25 € par jour. Il y a franchement des jours où moi, j'ai envie de jeter l'éponge et de m'allonger sous un champ de prunier et de me dire allez, maintenant, c'est terminé. Il y a des moments où j'en ai envie de ça.
Vous avez comptabilisé le nombre de CV envoyés ?
La première année, j'en ai envoyé 1500. J'en faisais 6 par jour. 2 le matin, 2 à peu près vers midi, après-midi, et 2 le soir.
Quel est l'emploi que vous recherchiez ?
Assistante de direction ou secrétaire. Parce que souvent, on dit secrétaire et c'est assistante de direction. Donc, dans le secrétariat, en tout cas, l'assistanat d'un directeur, d'une directrice, d'une équipe. Voilà. Quand j'avais des entretiens, à 2 ou 3 reprises, on m'a fait des remarques sur mon âge. Alors une fois, j'ai une recruteuse, une jeune recruteuse qui m'a dit « Comment je pourrais vous faire des remontrances ? Vous avez l'âge de ma mère. » Bon, donc là, voilà, ça c'est dit. Une autre fois, j'ai eu une autre petite trentenaire qui m'a dit « On peut vous appeler mamie ?» Alors en entretien, j'avoue que ça m'a un peu déconcertée. Une autre fois, lors d'un remplacement, et ça a été douloureux, je ne sais plus comment est venue cette conversation, et cette jeune dame de 35 ans m'a dit « Mais toi, dans 10 ans, tu seras pas à la retraite, non, tu seras en maison de retraite. » Et ça fait mal. Et tout récemment... Un recruteur que j'ai rencontré m'a dit « Vous savez, je vais vous mettre dans la confidence, passé 50 ans, moi j'embauche pas les neurones, ça fonctionne plus de la même façon. » Ben, moi, pour être franche, je me vois pas vieille du tout. Alors pas du tout, moi j'ai 55 ans, j'espère pouvoir continuer comme ça, mais j'ai la pêche, j'ai presque plus la pêche qu'à 40 ans. Donc moi je me vois pas vieille du tout. Je suis disponible, je suis pleine d'énergie, j'en fais 2 fois plus que les autres pour faire mes preuves, j'ai de l'endurance. Donc non, moi je me vois pas vieille, mais du coup je me vois autrement. Quand je me regarde dans une glace ou que je regarde les photos ou autre, je me vois autrement. Et puis quelque part, ça m'interpelle. C'est vrai que pour un trentenaire, quelqu'un de 55 ans, peut-être que oui, j'ai l'air vieille, je sais pas. J'arrive donc chez Tante Marthe, en fait, là où je venais boire de l'orangeade quand j'étais petite. Et là, j'ai ma chambre sur le palier, voilà, de sa maison à l'étage, en fait. Puis c'est une jolie maison parce que c'est sur une propriété, donc voilà. Et donc la fenêtre de ma chambre, puisque c'est ma chambre, elle donne sur la vallée, ou la vallée des 13 clochers, donc. Comparé à ce que j'ai laissé, la solitude, la grande ville, les gens... la peur, les recherches de travail, pas manger ou manger sur un coin de table, fumer cigarette sur cigarette, pas sortir quasiment, etc. Là, c'est un conte de fées parce qu'on a une vie qui est organisée toutes les deux. Donc moi, je suis dame de compagnie, mais vous imaginez bien que j'ai du temps devant moi, quoi. Donc les journées sont très orchestrées. Alors le matin, 6h30 debout, donc quand c'est le printemps, été, on va mettre nos petits petons dans l'herbe pour se détoxifier, ça c'est une recette de grand-mère, mais ça fait un bien fou. On prend le petit déjeuner, ensuite elle va à sa toilette, moi je fais mon petit fufu, comme je dis, je nettoie derrière moi, etc. Et puis après, ça dépend, si elle a des promenades, si elle a des rendez-vous chez le médecin, les courses à faire, le midi, on prépare le repas, on mange, et puis l'après-midi, elle fait une petite sieste. Donc là, en général, moi, je fais des recherches d'emploi, Et donc je fais ça. Quand elle a des kines, donc comprendre des lotos, je l'amène. Alors au début, j'allais pas avec elle. Maintenant, je vais avec elle. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Ensuite, on rentre. Il y a toujours un peu de jardinage à faire. Ensuite, on prépare le repas. Donc elle regarde question pour un champion. Donc bon. Moi, de temps en temps, je regarde avec elle, pas toujours. Et il faut que je m'accorde aussi du temps pour moi quand même, hein, parce qu'il faut que je me prépare pour l'après Tante Marthe, ça c'est important. Je pense que je pourrais rester vraiment avec bonheur, mais le problème est que Tante Marthe va partir en maison de retraite, que c'est juste, je suis là pour un passage dans sa vie, elle est là pour un passage dans la mienne, et qu'il ne faut pas que je perde de vue que je cherche un emploi, que c'est impératif, parce que si demain Tante Marthe ne m'héberge plus, si je ne suis plus hébergée demain, ça va pas aller du tout pour moi. C'était Deux femmes courage, un reportage de Leïla Djitli réalisé par Perret Legras avec un coup de main de Cécile Lafont. Merci à Margot, à tous ceux qui la soutiennent au village et ailleurs, à Nathalie, aux clients du bar tabac épicerie de Champ du Bout dans le Calvados, à Sandrine Chaperon, à Camille Richir et à Sarah Djiriwi. Sachez que depuis la première diffusion de cette histoire, de ces deux histoires en mai 2016, Nathalie assure ne pas avoir été traumatisée par sa mésaventure. Au contraire, elle est devenue une célébrité locale, si on peut dire, et elle raconte que même les Américains sont venus la filmer. Et en plus, elle a gagné plein de sous avec sa vidéo YouTube. Quant à Margot, elle est devenue également populaire, mais plutôt auprès des hommes et des femmes politiques. À l'époque, elle a été reçue à l'Élysée et par Myriam El Khomri, qui l'avait embauchée. Maintenant, elle a un CDI à la mairie de Bordeaux. Résultat, dit-elle, de son combat acharné.